Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis reconnaissant pour ce mois et la communication. C'est un peu ironique, je suis la personne qui parle de la communication. Mais Dieu sait tout et voilà. Est-ce que je dois faire quelque chose pour ça? Voilà. D'accord. La grâce dans la communication familiale. Et chacun qui fait partie d'une famille sait qu'il faut de la grâce, n'est-ce pas? Je veux commencer par une question. Quelle importance la communication a-t-elle dans la vie d'une famille? Quelle est l'importance? Lors de ma préparation pour ce message, j'ai relu un verset qui m'a frappé comme il ne l'avait jamais fait auparavant. C'est un verset où Pierre, citant le psaume 34, dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et qui veut aimer la vie ce matin? Moi, je veux. Et qui veut voir des jours heureux. Qui veut avoir des jours heureux? Tout le monde, n'est-ce pas? Et selon vous, quelle est la clé pour une vie heureuse? Écoutez Pierre qui dit qu'il préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Je pense que j'étais aussi frappé parce que je ne pense pas souvent que je dirais que la communication est la clé pour une vie heureuse et agréable. Mais c'est clairement dit, le bonheur est intimement lié à la communication. Nous pouvons appliquer ce verset à la vie familiale en disant, si quelqu'un en effet veut aimer la vie en famille et voir des jours heureux en tant qu'une famille, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Croyons-nous ce matin que la communication détermine le niveau de bonheur dans nos familles. Bon, considérez l'importance que la communication porte dans le monde des affaires. D'accord? J'ai une petite histoire ici. En 1994, il y avait une compagnie aérienne appelée Continental aux États-Unis. Elle perdait les bagages des clients plus souvent que toutes les autres compagnies aériennes. Ils recevaient des plaintes des clients plus souvent que toutes les autres compagnies. Ces vols étaient en retard plus souvent que toutes les autres compagnies. Et pendant les 10 années précédentes, la compagnie a changé 10 fois de président directeur général. C'était pas bon, hein? Elle avait déjà dû se déclarer en faillite 2 fois. Et elle s'approchait rapidement d'une troisième et dernière fois faillite. Quand Gordon Bethune a accepté le poste de PDG en 1994, il savait une chose. S'il pouvait améliorer la communication dans la compagnie, il pouvait encourager les employés à travailler ensemble pour le bien de la compagnie, des clients et des actionnaires. Il a lancé donc plusieurs initiatives pour encourager la communication ouverte parmi les employés de la compagnie. En 1994, quand Bethune a pris son poste, Continental perdait 204 millions de dollars. En 1995, la compagnie a réalisé un bénéfice de 202 millions de dollars. Ça fait presque 400 millions de dollars différence entre les deux années. L'année d'après, elle a doublé ses bénéfices. Comment Béthune a entraîné ce changement? Écoutez cette conclusion de Richard Maxwell. Il a dit, c'est uniquement par une communication claire qu'une équipe peut réussir. Peu importe que l'équipe soit une famille, par exemple, une entreprise, un ministère ou une équipe de sport. Une équipe efficace est constituée de partenaires qui sont toujours en train de se parler. La communication augmente l'engagement et le lien entre les partenaires. En retour, les partenaires alimentent l'action. Si vous voulez que votre équipe offre le plus haut niveau de performance, les gens qui font partie de l'équipe doivent savoir parler et s'écouter les uns les autres. Bon, l'atmosphère de nos familles, tout comme celle de cette compagnie, est liée à la communication. Quel est l'état de nos familles ce matin? Sont-elles heureuses, marchant comme une équipe efficace? Ou sont-elles pleines de tensions et de conflits? Notre réponse à ces questions est liée à l'état de notre communication familiale. Oh là là. Vous voyez, hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi ça. Je doute qu'il y ait parmi nous une personne qui puisse dire qu'elle fait partie d'une famille caractérisée par une communication parfaite. C'est pas possible. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Je doute aussi qu'il y ait une personne qui puisse affirmer qu'elle communique parfaitement. Nous avons tous besoin d'entendre ce que Dieu dit sur la communication. Nous allons considérer trois points principaux ce matin. Les obstacles à la communication, l'esprit de la communication chrétienne et l'exercice de la communication chrétienne. D'accord? Les obstacles, l'esprit, l'exercice. D'abord, quels sont les obstacles à la communication familiale? Ils sont beaucoup. Mais d'accord, on peut dire premièrement que l'un de nos obstacles, c'est la supposition que la communication est facile. Il y a un danger aujourd'hui de penser que la communication est facile parce qu'il est facile de communiquer. Vous voyez, c'est facile aujourd'hui de communiquer. On a des portables, et tous. Nous pouvons partager instantanément de l'information par SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nous pouvons suivre la vie de nos amis à toute heure de la journée grâce aux réseaux sociaux. Mais cette connexion perpétuelle nous coûte cher. Nous avions échangé la communication personnelle pour la communication constante. Au nom de la communication constante, nous passons ironiquement plus de temps avec nos appareils qu'avec les membres de nos familles. Et malheureusement, nous connaissons parfois nos appareils mieux que nos familles. C'est vrai, hein? Et c'est triste. Nos appareils sont-ils en train de rendre la vraie communication impossible parce que nous regardons l'écran plus souvent que nous regardons le visage d'autres membres de la famille? Sommes-nous plus au courant avec la vie d'une amie, soigneusement présentée sur Instagram, bien sûr, qu'avec la vie des membres de nos propres familles? Bon, ce sont des questions qui piquent. Mais ils sont importantes. Le deuxième obstacle est la complexité de la communication. La communication est complexe. La communication n'est pas facile parce qu'il y a trois types de communication toujours présents dans une conversation. La communication verbale, nos mots. Les gestes, c'est-à-dire la communication non verbale. Et le ton de la voix. Merci, merci. C'est un grand écart entre les deux. Nous ne pouvons pas prétendre que la communication soit limitée aux mots qui sortent de nos bouches. Ces mots sont accompagnés par les gestes et les tons qui parfois communiquent le contraire des mots prononcés. Et ça complique la communication. C'est un obstacle. Le troisième obstacle est la diversité des participants. Prenez par exemple les perspectives différentes entre l'homme et la femme. Ça, c'est un sujet trop grand pour ce matin, hein, mais on voit les choses différemment. Bon, tout le monde le connaît, je pense. Deuxième mot, pensez à la différence entre les générations différentes, même ici dans cette église. Les adolescents ne raisonnent pas. Qui ne raisonnent pas comme ceux qui ont déjà 50 ans. Non, je plaisante un peu, mais je blogue. Hein. Je sais que vous raisonnez. Hein. Mais ils communiquent d'une manière différente. Ils ont des perspectives différentes qui viennent du fait qu'ils n'ont pas les mêmes expériences. Oui. Prenez un homme de 55 ans qui a vécu la majorité de sa vie et un homme de 12 ans. Ils ne peuvent pas voir les choses de la même manière. Et ça présente l'obstacle. On a tous des histoires différentes, n'est-ce pas? Les expériences façonnent notre façon de communiquer et notre interprétation de la communication d'autrui. Il est fort difficile d'interpréter la communication présente sans être affecté par le passé, n'est-ce pas? Je ne peux pas oublier le passé. C'est toujours là. Je dois résister le passé, mais je ne peux pas oublier le passé. Et il y a toujours des natures différentes. Soit vous faites partie d'une famille chrétienne, soit vous êtes le seul chrétien dans votre famille. Il y a toujours deux natures présentes pendant qu'on communique. L'ancienne nature pécheresse et la nouvelle nature sanctifiée. Et ça complique, n'est-ce pas? La présence de l'ancienne nature complique la communication claire parce que cette nature produit la division et les querelles. Ouais. Ce sont des obstacles qu'il faut connaître. Hein. Ils sont toujours là. Je pense que nous n'ayons pas besoin d'avoir un séminaire spécial ce mois pour nous convaincre que la communication claire n'est pas facile. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on accepte. On le découvre journellement au sein de nos familles où se trouvent la colère, l'animosité, les disputes et les jalousies. La complexité de la communication nous affronte chaque fois que nous secouons la tête en disant « Pourquoi a-t-il répondu comme ça ?» ou « Comment peut-elle penser ça ?» Je ne comprends pas. La communication claire n'est pas facile. Mais elle n'est pas non plus impossible. Voilà. Il y a de l'espérance, toujours en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous communiquer d'une manière claire? Et c'est cette question qui nous amène à notre passage pour ce matin. Trouvez avec moi Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. La lettre aux Éphésiens chapitre 4. Versets 29 à 32. Et là, Paul écrit, l'Esprit Saint dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va voir maintenant l'esprit de la communication familiale et c'est la grâce. L'esprit d'une famille chrétienne doit être caractérisé par la grâce. Regardez au verset 29 où Paul dit que nos mots doivent communiquer une grâce. Et dans ce petit mot, il se trouve l'esprit de la communication chrétienne. Il convient que nous prenions le temps pour considérer ce que signifie ce mot, la grâce. Quelle idée Paul veut-il nous communiquer par le mot grâce? Bon, avant de répondre à cette question, rappelons-nous que souvent un mot revêt plusieurs sens, n'est-ce pas? Par exemple, le mot grâce en français porte plusieurs sens. Premièrement, c'est un don accordé sans qu'il soit dû, c'est-à-dire la faveur, une disposition, le pardon. Ou deuxièmement, c'est une action de reconnaître un bienfait reçu, c'est-à-dire un remerciement. Grâce à, rendre grâce, les actions de grâce. Mais troisièmement, il y a un aspect agréable, agrément, qui s'attache à l'apparence, c'est-à-dire ces mouvements ont une grâce. La grâce d'une femme, etc. De même, le mot en grec a plusieurs facettes de signification qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et nous allons nous concentrer sur les deux aspects principaux du mot. Premièrement, peut-être la facette du mot qui est la plus connue est la suivante. C'est une disposition accueillante aux autres malgré leur manque de mérite. Quelle est la grâce? C'est une disposition accueillante aux autres malgré leur manque de mérite. Nous trouvons souvent ce sens dans les lettres de Paul. Par exemple, Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Romains chapitre 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est comme c'est une sphère, et ils sont dans cette sphère de grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ou en Romains chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est-à-dire, la loi exige le mérite, mais la grâce dit « Venez ». Par le mérite de Jésus-Christ. Ou en Galates chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » On ne peut pas être sous la loi et sous la grâce en même temps. C'est impossible. Dans chacun de ces versets, Paul parle de notre état, qui reflète l'Esprit de Dieu envers nous. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Ceux qui sont chrétiens se trouvent dans la faveur de Dieu parce qu'ils sont ses enfants. Ils sont justifiés devant Dieu, c'est-à-dire ils sont entrés dans une relation de paix avec Dieu. Ils sont acceptés par Dieu. Dieu les accueille. Selon Paul, la grâce est l'accueil de Dieu. Si vous êtes chrétien, Dieu vous accueille. Il dit tout le temps, viens, Viens, mon enfant, reste à côté de moi, sois avec moi. Ça, c'est la grâce. Dieu a une disposition accueillante à ceux qui croient en Jésus. Mais comment une personne peut-elle obtenir cet accueil divin? Doit-elle le mériter? Selon Paul, on obtient cet accueil par la foi. Regardez à nouveau Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » C'est pas par le mérite, c'est par la foi, qui n'est pas le mérite, qu'on a cette grâce. Le mot grâce a pour l'une de ses significations l'idée d'un accueil immérité. Il porte aussi un autre sens beaucoup plus utilisé dans le Nouveau Testament, Et ça, c'est le sens d'un cadeau immérité qui rend quelque chose possible. Vous voyez, c'est quelque chose, la grâce est aussi un cadeau immérité qui rend quelque chose possible. Par exemple, regardez au 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Où la grâce est un cadeau qui permet la générosité. La générosité. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Nous nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il parle dans les langues. Non, c'est pas ça. Ils font des miracles. C'est pas ça. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. La grâce rend possible la générosité. Pour mentionner aussi cette grâce qui permet la générosité en 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 9. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. La grâce rend possible la générosité. Mais la grâce rend possible aussi la persévérance pendant la souffrance. Selon 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce rend possible la persévérance face aux souffrances. Et la grâce rend possible la fidélité face à l'opposition spirituelle. 2 Timothée 2, 1 à 7 dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il faut la grâce pour souffrir. Il faut la grâce aussi pour être fidèle face à l'opposition spirituelle. En résumé, la grâce est une disposition accueillante aux autres. D'accord? Les bras ouverts. Même envers ceux qui ne méritent pas l'accueil. Et en même temps, la grâce est un don qui rend possible l'accomplissement des bonnes actions. Maintenant, nous devons nous mettre sous la lumière du passage. Chacun doit se poser la question, ma communication est-elle caractérisée par la grâce? Plus précisément, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Quand je communique aux autres membres de ma famille, est-ce que je signale que je les accueille? Mes mots invitent-ils ma famille à faire partie d'une relation ou rompent-ils les liens qui nous unissent? Est-ce que j'utilise des mots et un ton qui invitent ma famille à parler ou ma famille est-elle repoussée par ma communication, mes mots, mes gestes? Entend. Si nos mots repoussent, ils ne sont pas des mots de grâce. Et ça, c'est un problème. Nous pouvons nous poser des questions sur nos réponses aux blessures causées par notre famille. Quand ma famille me blesse, et ça va arriver, c'est sûr. Quand ma famille me blesse, ma réponse encourage-t-elle la réconciliation? Est-ce que mes mots donnent témoignage de la réconciliation offerte en Jésus-Christ? Mes mots invitent-ils la réparation de la relation ou exacerbent-ils la rancœur? Vous voyez? Est-ce que je mets de l'essence sur le feu avec mes mots? Approfondissent-ils le fossé entre moi et mon épouse, mon enfant ou mon frère? Si nos mots amplifient un conflit, ils ne sont pas des mots de grâce. Et l'esprit de la communication chrétienne est la grâce. Il y a aussi un autre genre de question qui montrera si nos mots sont pleins de grâce. Quand je parle, est-ce que j'emploie des mots qui rendent possible la réussite des membres de ma famille? Par exemple, utilisons-nous des mots qui donnent à nos familles le courage de faire ce qui est juste? Est-ce que nos mots rappellent à nos familles l'amour de Dieu pour eux, un amour qui leur permet de persévérer face aux souffrances? Devons-nous avouer que nos mots détruisent la confiance et cache l'amour de Dieu? Bon, chers frères et sœurs en Christ, nous devons examiner notre communication à la lumière de la grâce de Dieu. Son accueil immérité et ses dons qui rendent possible l'obéissance. Si nos mots, nos gestes et notre ton ne communiquent pas la grâce à nos pères, nos mères, nos épouses, nos frères, nos sœurs, nos cœurs ne sont pas entièrement en accord avec la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Comme Jésus nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ça c'est Matthieu 12, 34 à 37. Nos mots qui créent des barrières et qui découragent les bonnes actions révèlent des cœurs qui ne sont pas contrôlés par la grâce de Jésus-Christ. Que pouvons-nous faire? Si, peut-être, quand, c'est mieux. La Bible expose un manque de grâce dans nos mots. Nous avons un seul recours. Nous devons nous repentir de ce péché et croire que Dieu pardonnera tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Un chrétien est par nature une personne qui se répand des péchés quotidiennement en croyant que Jésus est sa seule source de pardon. Ça, c'est un chrétien. Cette grâce de Dieu est une source abondante de paix pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Face à nos péchés, nous trouvons de la consolation dans la grâce de Dieu, mais cette grâce nous donne plus que la consolation, n'est-ce pas? Elle nous instruit aussi à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, selon Tite, chapitre 2, verset 12. La grâce de Dieu nous enseignera comment parler avec un esprit rempli de grâce, mais la transformation de notre communication ne sera pas facile. Ça prend la vie, toute la vie. Une seule décision prise une seule fois n'est pas le moyen par lequel nous deviendrons les personnes qui communiquent la grâce. En fait, selon Paul, en Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, nous devons faire trois choses afin d'avoir une communication transformée. Premièrement, nous devons nous dépouiller de la communication corrompue. Après, nous devons renouveler nos esprits par la parole de Dieu. Il faut avoir des pensées qui sont changées. Et troisièmement, après d'être renouvelé, il faut ajouter, nous devons revêtir l'homme nouveau. Mais sachant que la transformation de notre communication ne viendra pas sans beaucoup d'efforts. Jacques, le demi-frère de Jésus, nous avertit par rapport à la langue, c'est-à-dire notre communication. La langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Chapitre 3, verset 8. Comment se revêtir avec la bonne communication quand la langue ne peut pas être domptée par l'homme? C'est une question que j'ai eue pour moi-même. Nous devons nous reposer sur le Saint-Esprit en cherchant d'avoir notre communication façonnée par la Bible. C'est-à-dire, si vous voulez changer votre communication, vous avez besoin du Saint-Esprit et vous devez passer le temps dans la Bible. C'est clair, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Nous retournons donc au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Là, au verset 29 à 32, nous trouvons plusieurs vérités qui pourraient transformer notre communication si nous les suivons. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. Et pour aider notre mémoire, je les organise sous l'acronyme GRÂCE. D'accord? Grâce. Comment communiquer la grâce par nos mots, nos gestes et notre temps? Nous communiquerons la grâce quand nous nous soumettons à la grâce. D'accord? Troisièmement, grâce. L'exercice de la communication familiale. Regardez au verset 29 à 32 où Paul dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, nous tirons 5 principes de ces versets pour avoir une communication qui donne la grâce aux auditeurs. Premièrement, le G. Gardez minutieusement la porte de la bouche. Ouais. Mets les sodas, comme ça. Ouais. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Cette vérité implique plusieurs choses. Il y a des implications. Cette vérité implique que la norme pour notre communication est élevée. Le verset 9 nous exhorte de ne pas laisser passer de nos bouches une seule mauvaise parole. Le verset ne dit pas, oui, si vous pouvez parler 55% du temps d'une bonne manière, ça va. Il dit 100%. Aucune mauvaise parole. Ça, c'est une norme exigeante. C'est une norme qui exige une attention constante et infatigable. On ne peut pas laisser le gars tomber. Deuxièmement, ce verset implique que les mauvaises paroles sortent naturellement de nos bouches. Nous ne pouvons pas supposer que les mots qui se forment dans nos esprits et qui veulent sortir de nos bouches sont bons. La majorité du temps, il n'est pas prudent de dire la moitié des mots qui se trouvent dans nos têtes. Il est prudent de considérer la nature de chaque mot nous pensons prononcer. On ne peut pas supposer que ce que je pense, c'est toujours bon. Troisièmement, ce verset implique aussi que nous avons la capacité et la responsabilité de peser nos mots. Paul suppose qu'un chrétien peut, avec l'aide du Saint-Esprit, discerner entre les bons mots et les mauvais mots. Comment juger entre les mots? La Bible ne nous donne pas une liste des mots défendus. Hein? D'accord, je veux dire quelque chose sur la lettre D. Bon, il ne se trouve pas là, je peux utiliser ce mot. Ça ne marche pas comme ça. Hein? La Bible nous donne ce principe par lequel nous pouvons juger la qualité d'un mot. Est-il édifiant? Si vous voulez savoir si un mot, si une phrase est bon ou est bonne, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je veux dire va édifier, va construire? Ce verset implique aussi que l'effet d'une communication est la norme par laquelle nous devons juger si la communication est acceptable ou non. C'est ce que je viens de dire. Dans ces versets, le verset 29 met en contraste des paroles mauvaises avec des paroles qui servent à l'édification. Des mots vrais, des mots intelligents, de beaux mots et des mots positifs ne sont pas forcément les bonnes paroles. Nous savons qu'un mot est bon s'il aide l'auditeur à croître spirituellement, s'il édifie. Ça, c'est le G de grâce, d'accord? Maintenant, le R. Reconnaître le besoin de l'autre. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification ou comme la version David dit, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin. La connaissance du besoin est nécessaire avant qu'une parole puisse être une parole qui correspond au besoin. C'est logique. Mais il n'est pas toujours facile de deviner le besoin d'un autre membre de la famille, n'est-ce pas? Il y a des cas où le besoin est évident. Par exemple, quand on répond à une question, ou quand une personne se confie à nous sur un problème ou un besoin. Parfois, ça c'est plus évident. Mais souvent, le vrai besoin n'est pas du tout évident. Et c'est dans ces cas-là où nous devons exercer le discernement spirituel. Il faut chercher. Par exemple, quand un membre de la famille se fâche et crie sur nous, la tentation est d'être aveuglé à tout sauf la colère exprimée et la blessure que nous sentons, n'est-ce pas? Mais si ça c'est le cas, nous ne pouvons qu'annoncer des paroles mauvaises. Mais si par la grâce du Saint-Esprit, nous essayons de comprendre le besoin derrière la colère, nous pouvons répondre à la peur de cette personne, parce que souvent c'est la peur qui pousse la colère. On peut voir aussi peut-être leur manque d'assurance. On peut voir leurs blessures, leur confusion, leur besoin de recevoir de l'amour inconditionnel. Si nous sommes en train de parler d'une personne incroyante, nous pouvons être certains qu'elle a besoin d'entendre des mots qui rendent témoignage à l'amour de Dieu et à son évangile. Il y a toujours un besoin derrière la colère. Voici un autre exemple. Comment répondons-nous à un membre de la famille qui aborde un sujet, mais pas d'une manière très spécifique? C'est-à-dire, c'est clair que la personne veut parler, mais franchement, le but de la conversation n'est pas du tout clair pour vous. C'est ici où vous devez poser des questions afin d'arriver au point où vous pouvez utiliser des bonnes paroles, des paroles qui correspondent aux besoins. Répondre aux besoins exige de la patience, parce que l'autre personne n'est pas toujours prête à divulguer le vrai besoin au début de la conversation. Il faut beaucoup parler, hein, pour achever le but. Bon, ce que je partage maintenant, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Parfois, elle-même ne connaît pas vraiment le besoin. Mais si nous sommes fixés sur notre responsabilité d'utiliser des paroles qui correspondent aux besoins afin de communiquer la grâce, nous écouterons d'une manière compatissante, en posant des questions jusqu'au point où nous comprenons ce qui est en jeu pour l'autre membre de la famille. Ça, c'est le R. Garder la porte de la bouche. Reconnaître le besoin. Et maintenant, le A. Aider l'autre par des mots édifiants. Aider l'autre par des mots édifiants. Paul dit qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une fois que nous avons reconnu le besoin, nous devons choisir les mots qui édifient ou qui aident les autres membres de la famille. Nos mots sont des outils donnés par Dieu pour achever un but. D'accord? Les mots sont des outils. Il faut les utiliser soigneusement. Et le but, c'est quoi? L'édification d'une personne. Tout au long d'une journée, nous pouvons aider les autres membres de la famille par nos mots. Nous pouvons les aider, premièrement, en les encourageant à faire la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous le faire? Nous le faisons en leur disant merci quand ils font des bonnes actions. Nous le faisons quand nous les félicitons pour un travail bien fait. Nous le faisons quand nous nous intéressons à leur vie spirituelle, en posant des questions sur leur lecture de la Bible ou leurs besoins spirituels. Nous le faisons quand nous prenons l'initiative de partager ce que Dieu est en train de faire dans nos propres vies. Deuxièmement, Nous pouvons les aider en leur parlant d'un problème spirituel dans leur vie que nous constatons. Les mots qui aident ne sont pas forcément les mots positifs. Parfois, nos mots doivent mettre en lumière un péché. En fait, les mots les plus utiles pourraient être les mots qui réprimandent si nous gardons la porte de nos bouches, si nous reconnaissons le vrai besoin et si nous choisissons des mots et un temps utiles. Ça, c'est le G, R, A, C. Vous êtes avec moi. Super. Le C, c'est quoi le C? C'est craindre d'attrister le Saint-Esprit. Craindre d'attrister le Saint-Esprit. Paul dit au verset 30, dans le grec, ce verset commence avec le « et ». D'accord? Kai, et. C'est-à-dire, il y a une liaison entre les deux versets. Il continue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, Paul nous donne une deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas laisser sortir une parole mauvaise. Une telle parole attristera le Saint-Esprit. Quelle personne ici n'a pas déjà vécu un moment où elle était au milieu d'un échange houleux quand un voisin, un ami ou un étranger s'approche? Qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, les mots et les tons se transforment. Là où il y avait avant la colère et la justification de soi, apparaît magiquement la tendresse, la gentillesse. Et la sollicitude, n'est-ce pas? À qui doit-on rendre grâce pour ce changement miraculeux? Nous devons dire merci à la peur. À la peur. Notre peur du mépris d'autres, la perte de notre réputation, nous motive à maîtriser nos mots et le ton de nos voix. Dans ce cas-là, la présence d'une autre personne nous motive à contrôler notre colère. Paul nous rappelle qu'il y a toujours une autre personne présente. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Cette personne, et nous savons qu'il est une personne parce qu'il peut être attristé, cette personne, selon Paul, fait attention à nos mots. Et nos mots le blessent, même s'ils visent aux autres. Il est blessé quand je blesse ma femme. Notons aussi que Paul suppose une relation amicable entre ses lecteurs et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il suppose que les Éphésiens ne voulaient pas attrister le Saint-Esprit parce qu'apparemment, ils aimaient cet Esprit Saint qui les a scellés pour le jour de la rédemption. C'est un peu comme un enfant qui cesse de parler d'une manière vulgaire quand sa maman, qu'il aime vraiment, entre dans la chambre parce qu'il sait que ses mots l'attristeront. Il se tait à cause de son amour pour sa maman. Par rapport à nos mots, nous devons vivre en nous rappelant sans cesse que le Saint-Esprit est toujours présent. Et que nos paroles mauvaises l'attristent. Nous devons garder la porte de nos bouches et nous devons choisir des mots utiles qui aident afin d'éviter d'attrister celui qui nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Et ça, c'est le C. Et maintenant, il nous reste quelle lettre? D'accord, on est ensemble. Éviter la méchanceté. Regardez au verset 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bon, il va de soi que la méchanceté n'est pas une communication claire. Mais combien de fois la communication familiale était bloquée à cause de la méchanceté d'au moins d'un membre de la famille. Chez nous. Dès qu'il y a un malentendu, un conflit, les parties sortent leurs armes en disant des mots remplis d'amertume, de colère, d'animosité et de calomnie. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, Jacques nous donne la source de ses péchés. D'où viennent les luttres et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Chapitre 4, versets 1 à 3. La méchanceté est présente dans nos familles parce que chacun insiste sur sa propre volonté, son propre désir. Par exemple, imaginez un frère qui blesse à plusieurs reprises sa sœur jusqu'au point où elle ne peut pas le voir sans sentir l'amertume et la colère. Ça arrive, n'est-ce pas? Imaginez qu'il y a une femme qui trouve qu'elle ne peut pas que parler méchamment à son mari parce qu'il l'a blessé fréquemment depuis plusieurs années. Un enfant n'a que des pensées dures envers ses parents à cause de leurs échecs pendant son enfance. Comment pouvons-nous appliquer Jacques 4 à ces cas? Parce qu'ils ont raison, n'est-ce pas? Ils étaient blessés. Premièrement, nous pouvons constater que ceux qui blessent sont en train d'insister sur leur propre volonté. C'est vrai. Si vous êtes ici et dans votre famille, il y a des personnes qui vous blessent et blessent et blessent. Et blesse, ces personnes ont tort. Ils ne sont pas justes. Et Dieu sait que vous êtes blessés. Ouais. On peut dire, c'est pas juste. Ils ont tort. Et ça, c'est suffisamment clair, je pense, mais je voulais insister sur le fait. Si vous êtes blessé, vous êtes blessé. Et Dieu le sait. Mais pouvons-nous dire que la personne qui répond avec colère est en train d'insister sur sa propre volonté? Pensez à la mort de Jésus. Comment pouvait-il répondre à ses meurtrières avec ces mots? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23. Il pouvait le dire parce qu'il n'était pas fixé sur sa propre volonté. Père, il pourrait dire, Père, punis-les parce que j'insiste que je reçois immédiatement la justice. Non, il a déjà dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc chapitre 22. Pour nous dire que la mort de Jésus sur la croix était un acte d'obéissance à la volonté du Père. En Philippiens chapitre 2, versets 8 à 9, Jésus pouvait répandre son colère, ni amertume, ni calomnie, parce qu'il était soumis à la volonté du Père, une volonté qu'il voulait sauver son peuple par le sacrifice volontaire de son Fils parfait, Jésus, Dieu parmi nous. Retournons à la question que j'ai posée. Pouvons-nous dire que la personne qui répond avec colère est en train d'insister sur sa propre volonté? La réponse est oui. Une personne qui, par sa colère ou sa méchanceté, alimente un conflit est en train d'insister sur son fort désir pour la justice maintenant. Elle n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu pour elle, ni pour l'autre personne. Il faut éviter la méchanceté. Et ça, c'est difficile quand on se sent blessé, n'est-ce pas? Ouais, je le trouve difficile. D'où vient la force de suivre l'exemple de Jésus? Paul nous donne une petite astuce au verset 32. Quand il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Pourquoi? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pouvons éviter la méchanceté grâce au pardon. Le pardon que nous donnons aux autres parce que nous vivons dans la connaissance que nous sommes pardonnés aussi. Oui, je suis blessé, mais j'ai blessé aussi quelqu'un. La communication pourrait porter la bénédiction ou la malédiction. Quel est l'état de nos familles aujourd'hui? Si nos familles sont caractérisées par le conflit, la colère et la dureté, nous pouvons conclure que notre communication n'est pas caractérisée par la grâce. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font partie des familles mélangées, hein? Des chrétiens avec les non-chrétiens. Et nous ne sommes pas obligés de changer la communication de nos familles, des membres de nos familles. Ouais. Il faut que nous fixions nos yeux sur nous-mêmes. La grâce accueille les autres membres de la famille et elle rend possible qu'ils fassent ce qui est juste et bon. La grâce garde la porte de la bouche. Reconnaît le besoin d'autres, aide les autres, craignez d'attrister le Saint-Esprit et évite toute méchanceté. Quoi faire? Parce que qui communique comme ça? Et notre seul recours est toujours si vous violez la loi de Dieu. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Si vous êtes chrétienne, vous êtes ici et vous confessez, ouais. Ma communication, elle n'est pas caractérisée par la grâce. Peut-être vous êtes un adolescent et vous parlez durement à vos pères, vos mères. Peut-être vous êtes un époux et vous savez que votre femme, elle a reçu blessure après blessure. Peut-être c'est l'inverse. Vous êtes une femme et vous avez utilisé vos mots pour injurer votre mari. Parents, hein? Nos enfants, ils sont petits. Et nous utilisons souvent des mots qui blesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons trouver la grâce et le pardon en Jésus-Christ. Parce que le Père dit, venez, venez, venez. Peut-être vous êtes venu ce matin et vous n'êtes pas chrétien. Vous ne croyez pas en Jésus et vous pensez, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Le message du christianisme est assez simple. Vous êtes un pécheur, c'est-à-dire vous êtes rebelle contre le Créateur Dieu. Et ce Dieu, il est venu, il est devenu homme. Il s'est sacrifié à la place des pécheurs. Après, il a été ressuscité. Il vit aujourd'hui. Jésus-Christ vit maintenant. Et il va venir encore une fois. Et il sera le juge. Mais pour tous qui croient en Jésus, pour tous qui prennent qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont du pardon. Mais tous qui ne croient pas seront punis. Ça, c'est le message en résumé. L'appel aujourd'hui est ceci. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ pour le pardon. Nous prions ensemble. Notre Père, la communication, c'est... Nous confessons que la communication est importante. Et nous confessons que nous péchons souvent. Sois avec nous. Amen.